Un vin, c'est quelque chose qui doit vous toucher au plexus, pas dans les neurones.
Un frais salé, c'est le cépage endémique de notre appellation.
Les gens font du vin pour gagner des ronds, moi je fais du vin parce que ça me plaît, parce que j'ai envie de faire du bon vin. La terre d'ici, ça s'appelle du poudingue.
Aujourd'hui, la biodynamie est une recette, un drapeau. En fait, c'est une démarche.
Média Vino Pro, le podcast vin qui va plus loin. Les œuvres vives, c'est avant tout l'histoire d'une rencontre. Celle entre un architecte naval, une maître de chais et un vigneron. Marc, Marie, Nicolas, trio engagé qui depuis le millésime 2020 affirment une stylistique de bandole rafraîchissante. Domaine les œuvres vives, Marc, Marie, Nicolas, Brise Marine sur bandole. Marc ?
Bonjour.
Enchanté ?
Très heureux de faire votre connaissance.
Vous m'attendiez sur les bords de l'eau ?
Oui, sur les bords du canal du bassin de l'Arsemal.
Oui, on voit le génie de la Bastille. On n'est pas à Bandol, bien qu'on soit au bord de l'eau. On est bien à Paris, une ville où vous avez passé de nombreuses années.
Oui, je suis, personne n'est parfait. Je suis parisien d'origine et une grande partie de ma vie, la majorité de ma vie, architecte naval. Il se trouve que mon bureau était à 100 mètres d'ici pendant de nombreuses années. Maintenant, je suis complètement, entièrement dans les vignes.
Depuis combien de temps vous êtes pleinement dans les vignes ?
Oh, ça fait... Le premier millésime, c'est 2020. En fait, c'est des vignes qui appartenaient à ma famille, tout petit domaine. Hein, on exploite aujourd'hui 4 hectares depuis 1958. Et donc, j'ai été élevé beaucoup en vacances dans mon enfance. C'est vraiment mes racines affectives dans cette maison avec ces vignes. J'ai vu les dernières cultures avec la mule et le travail à la main, et avec toujours ce souhait, un jour, de faire du vin avec ces vignes-là.
Il vous a fallu beaucoup de temps pour franchir ce cap ? Ouais. C'est un cheminement de vie, peut-être ?
C'est un cheminement de vie. Ces vignes étaient cultivées par ma mère. Il y a une douzaine d'années, le métayer a pris sa retraite, et j'ai repris la culture de la vigne. Depuis lors, il n'y a absolument aucun intrant dans la vigne. Ça a été absolument fait dans le plus grand respect de l'environnement. Je portais toujours le raisin à la coopérative et je suis sorti de la coopérative en 2020.
Mais malgré tout, vous étiez les pieds dans la vigne depuis plus de 10 ans.
Ah oui, depuis 12 ans, je pense.
Ça s'improvise pas, le métier de vigneron ? Comment vous êtes mis la main à l'étrier au niveau de la viticulture ?
J'ai un peu étudié, j'ai fait un stage au château de Pibarnon. C'est là où j'ai rencontré Marie Larose.
Marie qui est la maître de chais depuis déjà de nombreuses années de Pibarnon.
Oui, elle a eu la gentillesse de m'accepter en stage pour les vendanges 2017. Je me forme beaucoup, je fais beaucoup de formations, je lis aussi beaucoup. On a tous les trois des valeurs communes, ce même regard sur l'environnement, sur la sécheresse et sur le fait qu'il faut adapter les pratiques culturales à cette nouvelle condition climatique. Ben voilà, comment est-ce qu'on respecte la terre ? Donc, on plante des arbres dans les haies, dans les vignes, les couverts végétaux, amener un maximum de matière organique parce que la matière organique stocke de l'eau. Les arbres, contrairement à des idées reçues, produisent plus d'eau qu'ils n'en consomment. Évidemment, il faut les mener. Enfin voilà, il y a tout un travail sur la viticulture, sur la taille également, et sur l'environnement pour continuer à produire sans irriguer. Je trouve que c'est un non-sens de vouloir irriguer la vigne. Ça ne durera jamais longtemps, sauf à ce moment-là, en face du maraîchage dans l'interrang pour nourrir les gens, mais sinon ça n'a pas beaucoup de sens. Donc il faut trouver les moyens de se battre contre ces conditions qui deviennent de plus en plus difficiles. Les rendements baissent beaucoup. Il faut trouver les solutions et changer, évoluer.
On n'a pas évoqué le nom de votre domaine pour l'instant, mais il est dans la parfaite continuité de ce que vous venez d'évoquer, en fait.
Oui, le nom du domaine, c'est le domaine des œuvres vives. Les œuvres vives, c'est un petit jeu de mots parce que je suis architecte naval, j'ai passé toute ma vie à dessiner des bateaux. Les œuvres vives, c'est la partie immergée d'un bateau, c'est ce qu'il y a dans l'eau. C'est aussi un jeu de mots parce que œuvre, finalement, c'est l'impératif du verbe œuvrer, c'est donc aussi œuvrer pour le vivant dans la prolongation de ce que je viens de dire, qui est en fait de préserver l'environnement, de trouver tous les moyens pour rendre la terre plus résiliente, de façon à pouvoir continuer à cultiver pour faire du vin et pour nourrir les hommes.
Les œuvres vives, sur votre domaine, ce ne serait pas un peu les
les racines, tout ce qu'on ne voit pas aussi au niveau d'une vigne.
Exactement, c'est une très belle image, mais effectivement, c'est toute la partie cachée et la partie vivante, la partie qui fait que les plantes sont en vie, et le regard aussi qu'on porte là-dessus, qu'on porte sur la terre. On a vraiment aussi cette volonté d'action sociale, de partage. Bruno Latour, qui est un philosophe que j'aime beaucoup, apprendre à atterrir, à comprendre que la terre, on vient de là. On parle souvent de la nature comme quelque chose d'extérieur, on va se promener dans la nature, on exploite la nature, mais c'est un regard très distancié, on en fait partie en fait, et mettre les mains dans la terre, atterrir finalement au sens propre, hein, c'est prendre conscience que sans ce qu'on voit, sans sentir la terre, sans mettre les mains dedans, sans faire pousser des choses, on a du mal à comprendre qu'on vient de ça et que sans ça, on ne pourra plus vivre.
C'est une partie qui est encore aujourd'hui, je dirais, qui est trop souvent négligée dans la viticulture, la partie souterraine, ce qu'on ne voit pas, on se concentre un peu trop souvent sur la partie aérienne, mais la vie d'une plante, la vie d'un cépage, c'est un peu plus compliqué que ça.
Oui, bien sûr. La vigne, en fait, c'est une liane qui, si on la laisse pousser, fera plus de 30 mètres de long. Et voilà, et donc nous, pour faire du vin, on la maintient, pas vraiment un bonsaï, mais on la maintient toute petite. Se pose, quand on regarde vraiment les questions en profondeur, des tas de problématiques sur la taille, l'adaptation de la charge à la vigueur, de comprendre qu'en fait, on pense souvent que la plante pousse parce qu'il vient d'en bas, mais en fait, la plante pousse par la photosynthèse et par la sève élaborée qu'elle fabrique avec ses feuilles et qui redescend et qui permet l'enracinement. Et donc, c'est tout un circuit et c'est tout un équilibre qui est à trouver entre la partie aérienne, exposée au soleil, à la chaleur, la protection des baies, et ce qui se passe dans le sol, la façon dont les racines peuvent, à la plantation, qu'on puisse choisir de façon à ce que les racines pivots descendent vraiment, éviter qu'il y ait un chignon qui se forme. Enfin, il y a tellement de choses importantes et délicates à trouver, à améliorer par rapport à une agriculture un peu plus industrielle dans laquelle on a été un peu emmené dans ces dernières années. Il y a beaucoup de choses à faire, c'est passionnant.
Pour poursuivre un petit peu votre cheminement personnel, donc vous mettez à cultiver de la vigne à 12 ans, donc vous me précisiez tout à l'heure, et en 2017 vous faites un premier stage à Pibarnon, c'est ça?
Oui, moi j'ai toujours vécu, j'avais un an quand mes parents ont acheté cette maison, donc j'ai toujours vécu dans cet environnement-là. J'ai récupéré il y a donc 12 ans les vignes, et en 2017 j'ai fait ce stage au château de Pibarnon avec Marie Larose, qui est donc maître de chais, œnologue, et qui m'a accepté. Et en 2020, j'ai eu la possibilité de sortir de la coopérative. J'ai proposé à Marie et à Nicolas que l'on s'associe et que l'on crée ce petit domaine à partir de ces maintenant 4 hectares. À l'origine, il y en avait un de moins.
Les œuvres vives, c'est un trio avant tout.
C'est un trio, Nicolas et Marie qui sont des vrais vignerons et viticulteurs, et moi qui suis un apprenant.
Tous les vignerons me diront qu'ils apprennent toute leur vie. Donc avec 12 ans d'expérience, je pense que vous n'êtes plus tout à fait un néo-vigneron.
Non, mais j'ai beaucoup d'humilité. Je trouve que c'est un métier tellement beau et difficile aussi. Mais voilà, il est important de porter un regard différent aujourd'hui, et donc peut-être le fait de ne pas être originellement dans ce milieu, mais d'avoir un regard un peu nouveau, je pense que ça apporte peut-être, je l'espère en tout cas, à notre trio une forme d'inspiration, peut-être, je ne sais pas.
J'allais justement vous poser la question de la complémentarité entre vous trois. Quelle pierre apporte chacun de ses membres?
D'abord, il y a une vraie convergence sur les valeurs, sur l'amitié, sur la façon d'être. Chacun apporte effectivement...
Ses compétences, peut-être.
Ses compétences, voilà. Moi, j'ai peu de compétences en viticulture, mais je me forme, je regarde, je suggère, et puis je mets surtout les mains dedans, parce que c'est comme ça qu'on comprend, c'est comme ça qu'on comprend les choses, vraiment.
Et quelles seraient les compétences plus spécifiques de Nicolas et Marie?
Alors Nicolas, il a commencé, lui, par la partie vinif dans sa carrière, et puis en très longtemps, il a plutôt été en viticulture, et donc on est plutôt dans la vigne, Nicolas et moi, et Marie à la cave en vinif. On est hébergé pour l'instant par Pibarnon, par le château Pibarnon, avec la gentillesse d'Éric de Saint-Victor.
C'est un luxe?
Oui, bien sûr. C'est super, c'est aussi bien pour Marie, parce que c'est plus simple aussi pour elle pour l'instant. On projette une cave, un chai. Bon, c'est évidemment pas une situation durable, celle-là. Elle est
transitoire.
transitoire. Voilà. Et donc, adossé à petite maison, parce qu'au milieu de ces vignes, il y a une petite maison d'ancien petit mât provençal qui date de 1792. Et adossé à cette maison, on projette de faire un chai. On est en train de... dans le dossier administratif, toujours compliqué.
Donc aujourd'hui, concrètement, vous avez 4 hectares plantés, 4 hectares en production?
On a 3 hectares 2 en production. On a également 9000 mètres qu'on vient de planter, donc avec des racinés, greffera sur place. L'objectif étant de faire du blanc qui nous manque. Pour l'instant, on a rouge et rosé.
2 cuvées.
Voilà.
On goûtera peut-être d'ici quelques minutes.
Voilà, et donc on veut faire à peu près, on va faire du blanc sur cette parcelle-là. On a aussi planté 180 arbres avec une association qui s'appelle Des Enfants et des Arbres. C'est formidable. C'est formidable de faire ça. Ça a vraiment été un moment de joie extraordinaire de voir ces enfants qui ont parfaitement compris toute l'importance de ça. On pense pas, hein, mais les arbres, ça amène de l'eau plus que ça n'en consomme. C'est fondamental dans la protection de l'ombre et la protection des sols. Et...
fondamental par rapport aux enjeux.
Oui, oui, les enjeux climatiques, c'est... les arbres, c'est l'ombre, c'est des arbres que l'on mène, il faut les trogner de temps en temps, mais c'est vraiment très important à travers les réseaux de mycorhizes, à travers l'eau que produit un arbre. Un arbre produit 0,6 litres par kilo de bois. C'est important, c'est relativement peu su en général. Général, on pense qu'il y a une concurrence. Alors il y a des arbres qui sont pas trop copains avec la vigne, comme évidemment les pins, les chênes, etc. Mais nous, on a planté surtout des rosacées, donc des fruitiers, mais également érables de Montpellier, mûriers blancs.
Et qui relarguent de l'humidité.
Oui, un arbre, en fait, les phénomènes d'évapotranspiration, par l'évaporation, la feuille se refroidit. Et l'air chaud au contact de cette feuille, en fait, condense et produit de l'eau qui n'était pas là en fait, qui est de l'eau qui est dans l'air. On fait partie d'une association qui s'appelle Les Résilients, qui travaille vraiment sur ces questions-là, avec des conseils comme Alain Canet, des gens comme ça, Arbres et Paysages, enfin c'est vraiment des gens qui ont scientifiquement étudié plein de choses et qui mettent en place, bien sûr, les couverts végétaux, etc. Enfin, nous, on ne laisse plus un sol nu.
Ce sont des pratiques que vous avez récemment mis en place ou que, grâce aux échanges avec Nicolas et Marie, vous avez décidé d'appliquer?
Avec Nicolas et Marie, on est vraiment dans les mêmes objectifs. On comprend que, vu la baisse des rendements liés à la chaleur et au manque d'eau, il faut faire quelque chose. Moi, je trouve que c'est quand même un milieu assez vraiment sympa, quoi. Et donc, cette association des résilients propose un certain nombre de formations, de pratiques
adapter vos pratiques, pour le coup, dans des projections plus efficaces, peut-être, par rapport à ces problématiques climatiques.
Absolument. Donc, j'ai parlé des arbres, des couverts, il y a aussi les histoires de fermentation, l'ifo-fer, lactofermentation, etc., pour réensemencer les sols en bactéries, en champignons, de façon à remettre de la vie dans le sol. Hein. La matière organique, c'est 1% de matière organique en plus, c'est 200 mètres cubes d'eau stockée. C'est des petites choses, mais mises bout à bout, ça fait des façons de voir les choses complètement différentes. Vraiment, on travaille ensemble pour mettre en place ces choses-là.
Et sur Bandol, tout ce que vous soulevez, c'est pas demain. C'est aujourd'hui qu'on est déjà impacté par tous ces problèmes, d'eau en particulier.
Ah bah oui, à Bandol, là, enfin, quand on parle avec nos amis sur l'appellation, donc Bandol, c'est au maximum 40 hectos à l'hectare, hein, c'est ce qu'on faisait il y a si longtemps que ça. Aujourd'hui, c'est plutôt entre 25 et 30, hein. Donc c'est très significatif.
Vous avez pu voir une évolution depuis votre arrivée?
Déjà, 2017, c'était très sec, hein, donc nous, on est un peu nés dans cette problématique-là. Oui, oui, il y a un vrai changement, bien sûr, mais ça date d'il y a même pas 10 ans. Hein.
Et est-ce que les vignerons prennent ce dossier à bras-le-corps? Est-ce que vous avez des échanges entre vous, des retours d'expérience pour voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qu'il faudrait faire, ce qu'il ne faudrait pas faire aussi peut-être?
Oui, bien sûr, on est tous absolument convaincus qu'il faut changer. Ça dépend, parce que évidemment, il faut regarder avec beaucoup de bienveillance. Hein. Bon, il y a les domaines et puis il y a les coopérateurs. Les objectifs ne sont pas forcément tout le temps les mêmes pour tout le monde, mais globalement, oui, on se dit il faut changer. Bon, pour des domaines domaines qui sont là depuis longtemps, changer, c'est plus compliqué que pour nous. Ils sont petits, jeunes, on est tous les trois financièrement, on ne dépend pas directement du domaine parce que c'est trop petit pour pouvoir le... Pour
surtout à trois.
Voilà, mais c'est, l'objectif est quand même de grandir, peut-être de doubler la surface, quelque chose comme ça, pas d'aller trop loin. Mais... Et à partir de ce moment-là, ça permettra quand même de ce que quelqu'un, l'un d'entre nous au moins, vive complètement sur le domaine, on verra. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas et donc ça nous donne aussi une certaine liberté. Donc on fait des essais.
Lesquels ?
Par exemple, planter voilà, des arbres. Là, on a planté 180 arbres, les couverts végétaux.
Ça coûte cher de planter des arbres ?
L'association des enfants et des arbres donne la possibilité d'avoir une subvention qui, en gros, paye les plants. Hein. C'est les enfants qui plantent. Il y a un gros travail de préparation, mais c'est dans la joie et c'est formidable. Non, ça coûte pas cher.
À quelle échelle on peut tirer des bénéfices de ces plantations, d'après vous ?
Je pense qu'il faudra quand même 5-6 ans pour voir les choses. Je pense que là, vont grandir ensemble ces petits arbres qui font 50 cm de haut maximum à la plantation. Et les racinés, et ces vignes qu'on a plantées, je pense que déjà au moment de la grève, d'ici 4 ans à peu près, on verra où on en est. Il faut aller vite, c'est pour ça. Bah, je pense que tant qu'on a un peu d'eau, il faut vraiment planter des arbres. Parce qu'après, ce sera plus difficile. Il faut 3 ans quand même d'irrigation pour que les arbres s'implantent. Après, ils se débrouillent.
Vous nous avez dit que vous aviez donc à peu près 4 hectares aujourd'hui. Ce sont uniquement des vignes qui étaient issues de la propriété familiale ou vous avez racheté des vignes ?
La propriété familiale faisait un peu moins de 3 hectares. J'ai racheté 6000 mètres et puis là, on a 1 hectare en fermage.
Sans cette propriété familiale, objectivement, impossible de créer un domaine à Bandol aujourd'hui ?
L'accès à la terre est très très compliqué. Très compliqué. C'est tout petit.
1500 hectares quand même.
Oui, mais c'est pas... Voilà, il y a une lutte féroce pour le moindre lopin de terre.
Une concurrence peut-être aussi avec des personnes qui ne souhaiteraient peut-être pas forcément avoir que de la vigne.
Bon, c'est quand même bien défendu. Tout ce qui est à l'intérieur de l'appellation est soumis à l'acceptation. Donc non, c'est compliqué parce que déjà le foncier est assez cher.
160 000 euros l'hectare, je crois, c'est ça,
oui,
grosso modo ?
C'est ça, 160 000 euros. On dit entre 150 et 180. Enfin bon, chaque bout de terrain est très disputé.
La question du bâti aussi, parce qu'il faut idéalement un chai quand même pour faire du vin, c'est aussi un problème pour qui voudrait s'installer sur Bandol, de trouver des bâtiments pour vinifier.
Dans notre cas de figure, on est adossé à la maison, on voudrait construire ce petit chai, pas une très grosse construction, et vraiment dans un respect total du paysage, de l'environnement, moins consommateur d'énergie et d'eau possible.
C'est pas un peu, je dirais pas frustrant, c'est peut-être pas le terme, mais de se dire qu'on ne peut pas voir de jeunes vignerons voisins qui s'installent parce que l'environnement ne s'y prête pas pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer.
C'est un vrai problème, mais je pense que c'est un vrai problème assez général dans l'agriculture, en fait.
Même en termes de dynamique.
Oui. Non, mais bien sûr. Il y a quand même, des jeunes générations qui arrivent déjà au sein des domaines. Et puis, gens comme Jean-Philippe, par exemple, Baraveu, enfin, tout ça, c'est des...
Ça reste rare, quand même.
Oui, ça reste rare, c'est vrai, mais il y a,
Ça bougeotte, on va dire.
Ça bougeotte, des gens qui étaient un peu comme moi, qui étaient avant dans à la coopérative, etc., qui finalement décident de créer leur petit domaine, ça existe.
Vous nous avez parlé de votre histoire, de votre approche, et si vous nous faisiez rêver un petit peu pour nous embarquer dans vos vignes, comment vous pourriez décrire l'environnement où sont vos vignes ?
Alors les vignes sont majoritairement autour de ce petit mas qui date donc de 1792. Très grand pin parasol qui doit avoir à peu près l'âge de la maison. C'est vraiment un très très grand pin parasol, assez rare. Autour de la maison, il y a un peu plus de 2 hectares de vignes, une parcelle de 5000 mètres, et puis sinon c'est plutôt des parcelles de 2000-3000 mètres. Puis un petit peu plus loin, sur les hauteurs, au-dessus du plan du Castellet, dans un lieu qui s'appelle les Casses, il y a 8000 mètres.
Vous avez plusieurs parcelles, c'est pas d'un bloc. Hein.
Et ça, c'est vraiment un peu à la limite des Trias, c'est vraiment nos plus belles vignes à rouge. Sur la plaine du Bosset, donc là, on n'est plus en Bandol, on est en Côte-de-Provence, mais on va même peut-être sortir aussi des Côtes-de-Provence. Cette parcelle qu'on destinait à faire du blanc, où on va bien regarder ce qu'on veut mettre comme cépage, qu'on veut greffer comme cépage, parce que...
Vous entendez que ce ne sera pas forcément du rôle ou de la clairette, mais ça pourrait être d'autres cépages.
Peut-être, oui. Il faut qu'on trouve notre équilibre pour éviter d'avoir un rouge trop... garder de la fraîcheur, quoi. C'est vraiment ça le truc. Alors on est orienté nord-est, on est bien, il y a du fond, ça va vraiment être joli. Et puis il y a ces arbres qu'on a plantés qui sont tout petits mais qui vont grandir.
Au-delà de ceux que vous avez plantés, il y en avait d'autres, s'il y avait un peu boisé ou pas?
Alors autour de la maison, en arrivant donc au domaine, si on peut dire, il y a cette petite pinède, on traverse une petite pinède, donc c'est des pins et des chênes. On garde un peu loin des vignes, on va planter des haies autour de toutes ces parcelles, avec ces arbres, érables de Montpellier, murélier blanc, on va garder bas, qu'on va trogner, la trogne, c'est pas un très joli mot, hein, mais c'est quand même une pratique ancestrale, et en fait, aujourd'hui finalement, les pratiques un peu ancestrales, c'est...
Faut se la réapproprier.
Voilà, on a un retour à ça, je dirais, avec une validation scientifique qui permet de voir tous les bons côtés, peut-être d'adapter certaines choses, évidemment, puisque les choses ont quand même changé. C'est quand même très intéressant de regarder tout ça avec humilité et de se dire que reprendre ce qui avait de bon et l'adapter aux contraintes d'aujourd'hui.
La description que vous nous faites de votre terrain de jeu, si je puis dire, c'est ce qui a motivé votre nouvelle carrière dans la vigne, c'est être au milieu de cet environnement et profiter chaque jour de cet environnement.
Cet environnement, c'est vraiment celui de mon enfance. J'ai passé mon enfance à courir dans ces vignes, à parcourir toutes ces parcelles.
Sans goûter le vin, par contre.
Sans goûter le vin, bon...
Enfin, le vin produit sur ces parcelles, du coup.
Non, c'était le vin de la coopérative. Mais après avoir pas mal parcouru le monde, fait pas mal de choses dans ma vie, j'ai eu énormément de chance. Être juste dans les vignes, dans la nature, essayer de comprendre avec le plus de précision possible, essayer vraiment de comprendre comment tout ça fonctionne, ça m'apaise. J'ai 5 enfants et je me dis dans quel monde est-ce qu'ils vont vivre, et j'ai l'impression, portant ce regard sur la nature, d'apporter quelque chose, et que ce soit Nicolas, Marie ou moi, ces expériences-là, cette vision-là, de la transmettre, de la partager.
Alors moi, il y a une autre expérience que j'aimerais partager avec vous, c'est peut-être celle de déguster vos vins.
Eh bien, allons-y.
Vous êtes venu avec un petit top bag et deux bouteilles de chez vous, et on commence par un rosé. C'était une obligation de faire du rosé en vous installant ?
On dit souvent, ah oui, Bandol, le rosé. Oui, enfin, c'est le rouge, en fait, je pense, surtout.
Mais... c'est une appellation de rouge à la base. Hein.
Absolument. Mais le rosé est intéressant parce que c'est vraiment un rosé de dégustation. C'est un rosé qu'il faut manger avec. C'est dans un repas. Et c'est super. C'est super sur un rouget. C'est super sur un curry, des plats asiatiques, avec des oursins. Enfin, voilà. Mais il faut manger. C'est vraiment un rosé de... C'est un vin. Bon, d'ailleurs, on le fait comme un vin. C'est pas tout à fait le rosé d'apéro de l'été. Alors on fait aussi très attention, on a choisi un format de bouteille bourguignonne parce qu'elle se casse moins, ça permet d'avoir un verre un peu plus léger et donc de diminuer le poids des bouteilles et donc l'empreinte carbone. L'étiquette, le dessin, on y voit ce qu'on veut y voir, en fait, là. C'est un plan de forme de bateau, d'une tartane, qui étaient les bateaux qui transportaient les petits cargos méditerranéens, et qui transportaient notamment le vin de la plage de Bandol, parce qu'il n'y avait pas de port à l'époque, hein, Marseille, Toulon, ou les bateaux qui étaient mouillés au large. L'étiquette, elle est en tissu, elle est en papier recyclé, sans contre-étiquette, pour minimiser tout ce qui est collage, papier, etc. Voilà. Et on a supprimé la capsule, et on met juste un peu de cire pour coller la Marianne.
Alors, on est sur un rosé de pressurage, un rosé de saignée. On a une couleur très affirmée dans ce vin.
Oui, alors c'est juste pressé, pression directe. On a 60% de Mourvèdre, 20% de Grenache et 20% de Cinsault.
Alors là, une question que je devrais peut-être adresser plus directement à Marie, mais elle qui a l'habitude de vinifier Happy Barnon, qu'est-ce qu'elle peut faire de différent aux œuvres vives qu'elle ne fait pas à Pibarnon. Et je dirais, bon, évidemment, les parcelles ne sont pas les mêmes, les assemblages ne sont peut-être pas strictement les mêmes, mais quelle touche elle amène chez vous ?
La première chose, c'est qu'on vendange assez tôt. On ne va pas aller chercher le degré d'alcool, la fin du dernier. On cherche vraiment une buvabilité. C'est peut-être une des caractéristiques, que ce soit en rosé ou en rouge. Après ça, c'est quand même vraiment fait comme un vin. Hein. Il n'y a pas vraiment de... On n'y touche pas trop.
Au-delà de sa couleur, un vin qui est assez charnu. Je dirais, il y a un côté charnu, un côté gourmand, et puis une belle finale très fraîche, très salivant.
Oui, un petit peu de salinité à la fin, qu'on aime bien, qui appelle... Justement, c'est ça qui va bien dans un repas, en fait. Hein. C'est vraiment ça qui est important. L'image du rosé à Bandol, c'est toujours un petit souci, parce que oui, rosé de Bandol, on l'associe, quand on ne sait pas, souvent un rosé de Provence. Or, c'est bien sûr la région Provence, mais quand même, c'est une particularité par la présence du Mourvèdre. Hein.
Ça amène une structure quand même qu'on ne retrouve pas ailleurs.
Absolument, il y a une structure. Et ce qui donne aussi des choses assez intéressantes, c'est très, très souvent intéressant de boire un rosé qui a déjà un an de plus. Il vieillit bien.
J'ai eu quelques expériences pour le coup avec des Pibarnons rosés par le passé qui avaient de nombreuses années. Effectivement, c'est des voyages gustatifs et olfactifs qui sont très intéressants et complètement décalés.
Absolument, absolument. Et ça, c'est une particularité. Donc on s'est dit oui, rosé, bon, mais on est à Bandol, on continue à faire du rosé. On fait un rosé assez tradit finalement parce que on les tripatouille pas du tout. Hein. Je veux dire, c'est vraiment vinifié comme
de façon complètement naturelle.
Ouais, absolument.
On passe sur le rouge. Faire des bandoles, c'était important pour vous ? Vous auriez pu voler de vos propres ailes avec des vins de France ou autres ?
Ah non, Bandol, on est très attaché à l'appellation. Hein. C'est ce Mourvèdre qui est le cépage roi de l'appellation. Un cépage, on dit qu'il ne pousse bien que quand il voit la mer, mais voilà, ce qui me plaît aussi. Hein, du fait
de... Toutes les vignes de Bandol ne voient pas la mer pour autant.
Non, mais on n'est pas loin quand même. Et puis, il y a ce cirque de montagne, en fait, hein, quand on regarde la géologie du truc. L'appellation, elle est comprise dans un croissant colline qui bloque les entrées maritimes, en fait. Donc oui, on ne voit pas la mer, mais on est dans ce climat-là, qui est très important, qui est très tempéré pour l'instant. Je veux dire, j'ai toujours bu du Bandol et je suis un peu piqué au Mourvèdre.
Goûter vos vins, c'est différent quand même maintenant.
Oui, c'est passionnant, c'est évidemment passionnant.
Le premier millésime, les premiers vins que vous avez sortis, vous étiez comme un gosse qui découvre un jouet.
Pas un jouet, mais une merveille. Et puis, surtout, cette... évidemment, je dis, hein, je ne suis pas originaire de ce monde-là, mais voir à quel point le vin, au cours de toutes les phases de la vinification jusqu'à la mise en bouteille, est vivant. D'une semaine sur l'autre, on a une impression différente, on passe par toutes les phases, toutes les humeurs, en disant « Ah, ça va être super, ah, qu'est-ce qui se passe ?» etc. Et voilà, c'est une aventure, en fait. Enfin, moi, j'ai vécu la première vinification, je l'ai vécu comme des cauchemars la nuit. Et puis voilà, et puis c'est comme un conte pour enfants, ça se termine bien, c'est super.
Comment se distingue-t-on quand on est un nouveau domaine à Bandol? Qu'est-ce qu'on recherche à faire? C'est compliqué quand même, parce que l'appellation est vaste, il y a de nombreux domaines. Il faut quand même imprimer sa marque, quelque part.
Oui, alors là, sur le rouge, on avait vraiment une idée claire des choses. Hein. Là, donc, ce rouge-là, on est à 80% de Mourvèdre, 10% de Saint-Saud, 10% de Carignan. On n'a pas de Grenache. L'idée, c'était vraiment de se dire, on reste un peu plus sur le fruit. Il y a la structure, évidemment, du Mourvèdre, mais comment est-ce qu'on reste plus sur le fruit et finalement, comment est-ce qu'on fait un Bandol qu'on peut boire un peu plus jeune peu...
Tout en gardant, je dirais, entre guillemets, contraintes de Bandol avec l'élevage derrière.
Absolument, mais même la typicité, enfin on est vraiment à Bandol, mais sur la frange de, ben, on vendange plutôt, on va pas aller chercher forcément le dernier degré, quand on a la maturité, on y va, on vendange.
Et des macérations plus courtes ?
Nous, on est en macération, on est à peu près, au total, ça dure à peu près 3 semaines. Hein,
classique,
voilà, classique, oui. Alors on extrait peu, hein, on fait des remontages, un petit pigeage ou deux à la fin, mais on cherche pas non plus
à extraire
énormément, parce que c'est déjà suffisamment tannique comme ça, donc c'est des vins qui vont parfaitement vieillir, on n'est pas inquiet là-dessus, mais qui sont sympas à boire. On s'est dit, tiens, on ouvre une bouteille à deux, ben à la fin on a envie d'en boire une seconde, enfin quelque chose de peut-être de plus accessible jeune. Enfin, les vieux Bandol sont, enfin vieux Bandol à partir de, mettons, 7 ans, 7, 8 ans, c'est vraiment un autre monde, c'est génial. L'autre jour, j'ai ouvert une bouteille de 75, c'est toujours... Comment est-ce que, jeune, on arrive à faire quelque chose qui soit donc agréable?
Sans perdre pour autant de la profondeur.
Sans perdre la structure, sans perdre la profondeur, sans perdre l'authenticité du Mourvèdre, mais en y ajoutant un peu de gourmandise, peut-être. Et ça, c'est ce que nous donne le Saint-Saud et le Carignan, qui élèvent un peu les choses comme ça. Enfin.
C'est pour coller, je dirais, à une approche du vin... un peu différente depuis une vingtaine d'années, ou c'est par goût personnel? Vous aviez envie de faire ces vins-là?
Franchement, c'est vraiment par goût personnel. Il se trouve qu'effectivement, la tendance est un peu là-dessus, mais enfin, on n'est pas... ça reste un Bandol, donc de toute façon, on ne va pas transformer ça en vin léger. Souvent, on dit, voilà, le Bandol, il est assez facile la première année, et après, il se referme et il se réouvre plus tard. Essayez de garder la fenêtre un petit peu plus ouverte.
C'est la première fois que je le goûte, ce vin, je le découvre. Quand j'ai mis le nez dedans, on a, je dirais, la signature Bandol. Petite touche d'élevage juste domestiquée parfaitement. Par contre, là où, par rapport, je dirais, à l'image qu'on peut se faire d'un Bandol, beaucoup plus de souplesse en bouche, beaucoup plus d'accessibilité, ce que vous décriviez parfaitement, tout en gardant un très joli dessin sur la longueur, très élégant, très tendu aussi, je trouve, avec du volume, mais très digeste.
C'est vraiment ce qu'on cherche à faire, en fait. C'est une petite touche Carignan, Carignan-Saint-Saud, elle y est vraiment pour beaucoup, et puis aussi le fait de ne pas aller chercher des Mourvèdres trop alcoolisés, de ne pas trop extraire, de laisser un peu l'intégrité de tout ça et de se faire. Hein. C'est la même, la base, c'est la même parcelle, avec une complémentarité sur une parcelle qui est plus près de la maison. Nous, on décide des vendanges dans les vignes. C'est des tout petits volumes, donc en fait, on fait les assemblages à la vigne. On va déguster les baies tous les jours et on se dit, bah tiens, là, on va prendre ça et ça. On fait de la cueillette. Voilà, ça va nous faire notre rosé. Quelques temps après, on dit, ah ben voilà, les rouges, là, c'est bon, on va prendre ça, ça et ça. Et on co-vinifie ça, comme ça. Les assemblages, c'est à la parcelle et c'est en goûtant les baies.
Le blanc vous manque ?
Oui, le blanc, c'est sympa. On y croit beaucoup, et avec ce défi, hein, qui est de faire un blanc du sud qui garde un côté léger, un côté aérien, un peu d'acidité. C'est là où il va falloir qu'on soit malin sur les cépages, l'encépagement, l'équilibre, etc., qu'on va aller chercher.
C'est le prochain challenge des œuvres vives ?
Ah oui, oui, ça va être passionnant d'aller trouver, déjà de faire notre proportion entre l'encépagement, etc., ce qu'on veut faire, et puis après d'aller chercher les bois pour la greffe.
Des massales
absolument.
Finement trouvées.
Absolument, chez les gens. Et ça c'est pour moi qui voilà, c'est une aventure fabuleuse, ça. Ouais.
À quelle échelle ?
Oh, je pense qu'on va faire ça dans 3-4 ans, hein, le temps que les bois grossissent un peu.
Donc il faudra qu'on revienne vous voir d'ici 4-5 ans pour toucher vos premiers blancs, c'est ça ?
Eh bien, ce sera avec un grand plaisir, oui, oui.
Peut-être avec Marie cette fois ?
Ah, j'espère.
Et Nicolas.
Et Nicolas, bien sûr.
Merci beaucoup, Marc.
Merci, merci, merci beaucoup.
Domaine Les Œuvres Vives, Marc, Marie, Nicolas, Brise Marine sur Bandol. C'était un reportage de Fabrice Tessier, mixage Nolwenn Moquet. Ce podcast est disponible à la réécoute sur les plateformes Spotify, Deezer et Apple Podcasts.